Bonjour, bonjour à toutes et tous. Vous êtes sur Graphite 94.9. Je suis Stéphane et je suis en studio avec Léo, Guillaume, Giovanni, Perrine et Brian. Bonjour à tous les cinq.
Bonjour.
Alors ce matin, on est sur Graphite pour présenter les résultats du cours d'intersemestre Lotéquisation et numérique, un cours d'une semaine. Donc on s'est enfermé avec des étudiantes, des étudiants de l'UTT, de l'UTC, des enseignantes, enseignants également de l'UTT, de l'UTC, même des vrais ingénieurs en activité. Et on a travaillé un certain nombre de projets dans le cadre de ce cours autour de la lotéquisation. Alors la lotéquisation, je ne vais pas vous l'expliquer ici en détail, mais une des idées, hein, j'en ai parlé dans l'émission d'avant, eh bien, c'est de orienter les conceptions, l'ingénierie, le design autour des valeurs de responsabilité sociale, convivialité technique et soutenabilité environnementale. Une autre idée également, c'est de travailler sur des leviers un petit peu différents de ceux auxquels sont habitués les ingénieurs. En général, l'ingénieur est concentré sur un levier d'optimisation, c'est-à-dire qu'il cherche à partir d'un problème donné, eh bien, à améliorer au maximum un certain nombre de paramètres, comme par exemple diminuer les coûts, augmenter les rendements, etc. L'idée de la lotéquisation, c'est de jouer également, en plus, sur deux autres leviers, imaginer, c'est-à-dire remettre en cause les modes de vie, essayer d'imaginer comment on pourrait vivre différemment avec nos techniques, donc avec une approche plus radicale qui retourne aux racines de la conception des objets. Et puis également, et ça va prendre de la résonance, je pense, avec le projet qui va nous être présenté maintenant, un levier alerté qui consiste à réaliser des projets également dans le but de faire prendre conscience à d'autres acteurs, des consommateurs, des fabricants, eh bien, d'un certain nombre de problématiques sociales ou environnementales. Alors, le projet qui va nous être présenté donc, par Léo, Guillaume, Giovanni, Perrine et Brian est donc un projet un peu différent de ceux qui ont été présentés avant, puisque dans les autres projets, on était dans une démarche de design, de conception. Eh bien là, ils ont décidé d'essayer d'utiliser les outils de la lotéquisation pour faire de l'analyse critique d'un objet réel existant, le Fairphone. Alors donc, l'intitulé de leur travail, c'est « Critique et analyse donc des actions de Fairphone afin de proposer un smartphone soutenable et durable ». Alors j'espère qu'ils n'auront pas été trop méchants avec les travaux de Fairphone et qu'ils sauront nous mettre en avant également les avantages de ce produit, mais peut-être également des axes d'amélioration. Et puis, eh bien, si peut-être que cela nous donnera lieu à de nouveaux travaux ultérieurs autour de Fairphone. Je te passe un petit coucou Agnès, on verra un petit peu ce que tout ça donne dans le futur. Donc à présent, eh bien, si c'est bon pour toi, Léo, je te passe la main pour rentrer un peu plus dans le détail de cette histoire.
C'est bon pour moi, merci. Bonjour à toutes et tous. Pour commencer, du coup, on va d'abord faire une mise en contexte de pourquoi une entreprise comme Fairphone existe dans l'industrie téléphonique. Donc en fait, tout d'abord, l'industrie téléphonique, c'est une industrie qui s'est très vite accélérée en 2007, notamment avec la sortie du premier smartphone grand public, en fait, lancé par Apple. C'est ensuite une industrie qui a renouvelé ses besoins et en fait créé des besoins, tout d'abord matériels assez périodiquement, avec par exemple les écrans tactiles, les caméras frontales, les empreintes digitales. En fait, c'est des innovations qui étaient annuelles et qui créaient en fait des besoins superficiels pour le consommateur. Donc en statistique, par exemple, on a la durée de vie moyenne d'un smartphone qui est de 2 ans selon l'ADEME. Donc pour vous représenter un petit peu que c'est un secteur en fait qui va très vite concernant la sortie de produits. Et au-delà de ces innovations matérielles, on a également une innovation en fait logicielle qui a suivi avec des performances toujours plus demandées et cherchées. Et du coup, on a eu des mises à jour logicielles qui font que vos téléphones en fait deviennent inutilisables au bout de 4 ans à cause des mises à jour logicielles. Donc en fait, on a un renouvellement qui est entre guillemets forcé en fait par les géants de l'industrie. Et voilà, c'est aussi en fait un milieu qui est très compétitif et qui, bah encore une fois, en fait, cherche la nouveauté dans le produit, en tout cas des nouveaux produits. Par exemple, on compte 40 acteurs dans ce secteur-là en 2011, et les géants comme Samsung qui sortent plus de 26 produits annuellement en moyenne, et 10 pour Huawei par exemple. Et donc voilà, on a déjà le premier point qui est qu'on est dans un milieu qui cherche vraiment la sortie de produits et qui fabrique un maximum. Et là, on en arrive au nerf de la guerre, qui est que la fabrication d'un smartphone, en fait, émet 3/4 de ses émissions de son cycle de vie. Donc, selon l'ADEME, encore une fois, on dénombre déjà 50 métaux qui sont utilisés provenant du monde entier. Donc, ça pose des problématiques concernant l'acheminement de ces métaux, puisqu'on va utiliser des méthodes comme l'avion, les cargos, etc. Donc, et en fait, on parle de du monde entier. Donc, par exemple, l'or qui va être récupéré en Amérique du Sud, le plastique qui peut être récupéré en Asie, les métaux rares en Afrique. Et en fait, on a également des procédés de fabrication qui sont dans d'autres continents. Enfin, c'est vraiment des échanges intercontinentaux énormes. Et on a aussi les problèmes, les problématiques sociales, donc sur les conditions de travail. Donc, par exemple, le travail des enfants, on en dénombre plus d'un million travaillant. Et ça fait, c'est un chiffre qui ne fait qu'augmenter. Il y a aussi la toxicité dans les mines et ce genre de choses. Et voilà, donc et aussi on a le problème de recyclabilité avec les composants d'un smartphone qui sont actuellement recyclés qu'à 20%. Et voilà, et donc pour vous donner un peu plus de chiffres, c'est plus de 10 milliards de smartphones qui ont été commercialisés depuis 2007. Donc on peut se rendre compte en fait de l'impact que ça a. Et donc c'est dans cette dynamique que Fairphone arrive et tente de promouvoir une alternative sur la fabrication avec un design modulaire et qui essaye d'être construit à base d'une chaîne de production propre, donc à la fois sur le plan environnemental, en utilisant un maximum de matériaux recyclés et en tentant de recycler au maximum ces composants, et également sur les problématiques sociales avec une tentative de meilleure rémunération des travailleurs et dans des meilleures conditions sociales. Et donc voilà, je vais passer la main au maquettage pour continuer.
Bonjour à vous. Après avoir décrit le contexte menant à l'apparition des téléphones modulaires, une mise en commun d'idées et de critiques relatives à la marque Fairphone ont été évoquées. Ces idées et critiques ont été émises sous forme de maquettes, évoquant une histoire pouvant se rapprocher de la réalité pour donner des potentielles pistes d'innovation à explorer pour l'entreprise Fairphone. Et chaque histoire fait ressortir une fonction qui est caractérisée par des valeurs, des leviers et des tensions. Tout d'abord, les valeurs sont les aspects positifs de Fairphone. On appellera levier les outils sur lesquels Fairphone se base pour améliorer son image. Et les tensions sont les limites que rencontre Fairphone. Dans le cadre de cette API, nous avons réalisé plusieurs maquettes et nous allons vous présenter la suivante. Aurélien, employé chez Fairphone, fait la veille informatique et travaille sur les conditions des travailleurs dans les pays exploités pour la récolte des métaux. L'équipe dans laquelle il travaille fait de nombreuses avancées comme l'amélioration des conditions de travail dans cette usine exploitée. Grâce à elle, la fabrication du Fairphone tente de respecter au mieux les conditions des travailleurs. Son équipe et lui aimeraient que le travail réalisé soit mis en lumière via la presse afin de montrer aux concurrents et aux consommateurs qu'un autre mode de production est possible. Une section d'articles de presse sur le site de Fairphone a été ajoutée. Celle-ci permet de publier les démarches réalisées, de retracer l'historique des travaux réalisés, d'expliquer les tenants et les aboutissants et également d'apporter des éléments et des arguments. Il existe également une section de vulgarisation dans laquelle les avancées ont été résumées. Il en ressort plusieurs fonctions de cette histoire. Le site de Fairphone permet d'exposer aux personnes intéressées les travaux réalisés par Fairphone sur les conditions des travailleurs. De plus, il propose des solutions sur comment améliorer ces conditions, ce qui a pour but d'alerter les consommateurs et d'instaurer une vague de changement chez les concurrents. Comme valeur, nous avons la convivialité. Dans une démarche de transparence, Fairphone partage les travaux réalisés afin de justifier l'aspect social de son smartphone. Concernant les leviers, nous citons la LED. Grâce aux articles de Fairphone, les utilisateurs peuvent se documenter sur les mauvaises conditions sociales et environnementales d'extraction des métaux nécessaires à la création d'un smartphone. Et pour ce qui est des tensions, nous avons bien évidemment l'isolement, car en se restreignant à son site en tant que blog, Fairphone risque de partager ses travaux uniquement à des personnes déjà sensibles à la cause. Maintenant, nous allons passer à l'étape d'évaluation.
Bonjour à toutes et tous, vous êtes sur Graphite 94.9. Nous sommes en studio pour présenter les résultats des travaux menés ce semestre par des étudiants de l'UTC et de l'UTT autour de la low-techisation. Donc je suis Stéphane, en studio avec Léo, Guillaume, Giovanni, Perrine et Brian. Et donc on continue sur une analyse du projet Fairphone sous l'angle de la low-techisation. Et donc c'est Guillaume à présent qui poursuit.
Donc merci Stéphane. Dans le but d'améliorer la démarche de Fairphone, on a fait une critique de leur activité. Et pour ce faire, on a utilisé des outils qui visent à mettre en avant les qualités et les défauts de leur démarche. Donc le premier outil utilisé, ça a été les 7 péchés du greenwashing. Donc ces 7 péchés, ils mettent en avant les manières dont le greenwashing il peut être utilisé. Pour citer un exemple, il y a le péché d'imprécision qui dénonce des utilisations de termes trop vagues, comme par exemple des produits dits « verts » ou « sans danger pour l'environnement ». En fait, ces termes, ils peuvent mener à une mauvaise interprétation de la part du consommateur s'il n'y a aucune précision qui est apportée par la marque autour de ces termes. Donc lorsque l'on se rend sur le site de Fairphone, on trouve tout de suite la présence de ces termes assez vagues, mettant en avant des produits dits équitables ou responsables. Mais néanmoins, en fait, ces termes, ils prennent leur sens de par les nombreux documents comme des rapports d'impact, des articles ou des comptes rendus d'intervention sur le terrain, qui sont mis à disposition directement sur le site et qui expliquent en détail les actions entreprises par Fairphone. Donc pour donner un exemple de ces documents, certains expliquent comment sont améliorés les salaires des travailleurs, par exemple dans la chaîne de production, ou encore certains précisent quels sont les pourcentages de métaux rares qui sont issus d'une activité minière respectant les droits de l'homme et des conditions de travail décentes. Donc ça présente le pourcentage de ces matériaux-là qui sont contenus dans leurs produits. Ce sont donc l'ensemble de ces documents qui certifient la transparence et qui assurent une démarche intègre de la part de Fairphone. Mais en revanche, certaines décisions de Fairphone sont quand même discutables. En effet, ces décisions, elles peuvent être plus ou moins justifiées selon les différentes visions des consommateurs de l'usage d'un téléphone portable. Par exemple, Fairphone sort en moyenne un téléphone tous les 2 ans qui adopte les dernières technologies du marché. Donc cette démarche, elle s'inscrit plutôt dans une démarche consumériste, a priori. Mais en revanche, les personnes qui souhaitent se tourner vers un téléphone alliant modularité, durabilité et performance, ils verront Fairphone comme un choix intéressant et adhéreront ainsi à la démarche de l'entreprise. Mais dans le cas contraire, les personnes qui souhaitent un téléphone plus basique, capable d'effectuer des fonctions primaires, comme par exemple passer des appels ou juste envoyer des messages, ils seront donc moins intéressés par Fairphone. Et ça peut remettre en cause leur démarche. Voilà, je te passe la parole, Perrine.
Donc, dans mon cas, moi, je vais vous présenter l'outil critique de l'empreinte fantôme. Donc, l'empreinte fantôme, on peut la définir comme l'ensemble des liens qu'une machine tisse avec le reste du monde. Donc, c'est bien cette idée que ce soit au niveau social, politique, environnemental ou économique, une machine, elle a des conséquences et donc elle a une empreinte. L'empreinte fantôme, elle se définit selon plusieurs critères. Donc le premier dont je pourrais vous parler, c'est celui de la consommation et du cycle de vie. Comme le Fairphone, c'est un téléphone qui est modulaire, il possède une grande capacité de réparabilité. Il est très facile pour le consommateur de changer des composants comme une caméra ou un haut-parleur. Maintenant, si la durée de vie d'un smartphone est augmentée avec Fairphone, on parle de 5 ans et demi de durée de vie moyenne d'un Fairphone contre 2 ans pour un smartphone. Pour un smartphone classique, pardon. Au bout d'un certain temps, le Fairphone il fait évoluer son modèle et il arrête dans un second temps la production des pièces de remplacement de ses anciens modèles. Il n'est plus possible aujourd'hui d'acheter, par exemple, les pièces du Fairphone 2, 7 ans après sa création. On peut également noter que Fairphone crée des produits qui répondent aux attentes du marché et non du consommateur. Par exemple, un des arguments de vente vitrine du Fairphone 5, c'est la disponibilité 5G, alors qu'elle est encore très peu implantée mondialement et disponible uniquement dans certains forfaits coûteux, donc non utilisés par la majorité des consommateurs. Un deuxième critère de l'empreinte fantôme qu'on peut évaluer, c'est celui de la dépendance à la technique. Si le Fairphone, il est très facile à utiliser parce que On retrouve beaucoup de ressources, notamment des vidéos tutoriels disponibles en ligne pour guider le consommateur dans le remplacement des composantes de son smartphone. La liberté d'usage et de reproduction, elle n'est pas très développée. L'entreprise a publié sur son site de nombreuses données en open source, mais il s'agit uniquement de la partie software de leur travail. Ils auraient très bien pu, par exemple, publier les plans des composants de leur téléphone. Par contre, en termes de configurabilité, c'est très agréable de découvrir qu'il est possible à l'achat de choisir entre deux systèmes d'exploitation. Le consommateur peut choisir entre Android OS, qui, bien que open source, reste un logiciel dont le propriétaire est Google, et iOS, écrit avec un E, donc EOS en français, qui, pour le coup, est libre. Le dernier critère dont je vais parler est celui du mythe de la transition. Le Fairphone, il n'a pas pour volonté de proposer une substitution au smartphone classique. Donc, comme je l'ai dit, il repose sur les mêmes arguments vitrines et commerciaux que ses concurrents. Donc, on retrouve des écrans OLED, la compatibilité 5G, des caméras très haute qualité, etc. Fairphone, il veut faire tendre le smartphone vers un produit plus soutenable et convivial. Cependant, cette promesse, elle semble dure à tenir si des compromis techniques et fonctionnels ne sont pas réalisés dans le futur. De plus, on peut à première vue pas dire que Fairphone incite des entrepreneurs à soutenir la substitution. Fairphone a vendu 115 000 smartphones sur les 1,21 milliard vendus dans le monde en 2022. À cette échelle, Fairphone ne se trouve pas dans la capacité de faire pression sur les leaders de l'industrie téléphonique. L'entreprise Apple a par exemple vendu 72,3 millions d'iPhone la même année. Cependant, dans leur rapport annuel, Fairphone indique que durant l'année 2022, 13 pionniers de l'industrie téléphonique ont adopté une partie de leur démarche pour construire un avenir plus juste. Plus généralement, depuis 2017, 32 acteurs de l'industrie ont rejoint le mouvement. Afin de changer les pratiques de ses concurrents, Fairphone crée des programmes pour faciliter l'approvisionnement de métaux rares issus de méthodes plus justes. Par exemple, l'entreprise a créé en 2020 la Fair Cobalt Alliance, qui a pour objectif d'améliorer les conditions d'exploitation minière du cobalt. Pour le moment, 22 acteurs de l'industrie ont rejoint ce programme depuis 2020.
Bonjour à tous. L'outil que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'effet rebond. L'effet rebond pour un produit low-tech est l'annulation d'une partie ou de la totalité des bénéfices environnementaux en raison des effets secondaires sur l'autre dimension du produit. Tout d'abord, comme nous le savons tous, le but de Fairphone est de convaincre les autres constructeurs qu'il est possible de fabriquer des téléphones de manière éthique et éco-responsable. Pour y parvenir, Fairphone a reçu plusieurs financements par différents actionnaires, dont les principaux étaient InvestNL et d'autres banques néerlandaises. Mais sur 5 ans, Fairphone, bien qu'après avoir reçu un financement au total de 20 millions d'euros, et malgré son chiffre d'affaires, étant donné qu'elle vend des téléphones un peu plus chers par rapport aux autres, bien que les performances soient un peu plus basses, aujourd'hui, elle est obligée d'organiser une levée de fonds de 49 millions d'euros pour continuer son activité. Bien sûr, pour les autres entreprises, le problème ne serait pas l'argent pour pouvoir investir afin de construire des produits low-tech, mais le problème serait que par rapport au prix à payer, le prix des téléphones va également augmenter. Et lorsque les prix des téléphones vont augmenter, si cela devient une norme, les entreprises vont encore plus s'enrichir. Or, nous le savons tous, l'économie de l'appareil informatique a un véritable impact sur l'économie mondiale, dont les entreprises auront sans doute beaucoup plus de moyens pour investir dans d'autres domaines dont l'impact écologique ne sera pas anodin. Aussi, l'entreprise Fairphone pour la production de ses appareils utilise des métaux certifiés Fairtrade, qui est une certification gérée par l'organisation internationale Fairtrade. Or, dans le monde, on comptabilise au total 14 mines Fairtrade et les travailleurs de ces mines reçoivent 95% du prix de l'or défini par l'organisation anglaise, le LBMA. On peut donc conclure que l'or Fairtrade est une ressource rare et coûteuse. L'objectif de Fairphone étant de banaliser l'utilisation des matériaux certifiés Fairtrade pour la fabrication des appareils électroniques, on va se retrouver donc avec une demande élevée pour une petite offre à des coûts élevés. Bien sûr, ceci aura pour effet pour les entreprises fabricants de téléphones du monde entier d'utiliser des moyens détournés afin de trouver un moyen de produire des téléphones ou d'autres appareils informatiques certifiés Fairtrade sans toutefois que ce ne le soit vraiment. On aura donc une véritable incertitude sur la certification Fairtrade et les normes qu'elle essaie de protéger. On va donc se retrouver avec le même problème, mais de façon un peu plus complexe.
Donc merci. Pour conclure, on peut dire que Fairphone, ils offrent un concept intéressant d'un téléphone à longue durée de vie grâce à son design modulaire. Mais néanmoins, leur compétitivité sur le marché des smartphones les oblige à produire des téléphones régulièrement et intégrant des technologies ayant un impact environnemental important. Néanmoins, Fairphone ne veut pas devenir un leader du marché. Leur vraie force réside dans leur capacité à démontrer qu'il est possible de fabriquer des téléphones autrement, ce qui ouvre la possibilité à ses concurrents d'adopter des approches plus responsables et durables.
Merci à tous les cinq pour ce travail préliminaire autour de la critique de Fairphone, de l'analyse critique de Fairphone, donc sous l'angle de la low-techisation. Voilà, on pourra retenir 2-3 points. Vous avez notamment introduit par une critique de l'innovation. Donc c'était assez intéressant que vous rappeliez que l'innovation n'est pas une fin en soi, qu'elle peut avoir des effets intéressants ou moins intéressants, et qu'en tout cas il y a toujours des conséquences lorsque on développe des technologies. Vous avez fait l'effort d'essayer de mobiliser des outils méthodologiques qui étaient plus conçus dans un cadre de conception pour faire de l'analyse. Ça a donné, je trouve, des résultats intéressants. Par exemple, dans la présentation de l'empreinte fantôme, je fais un coucou également à mon collègue Guillaume Carnino qui est à l'origine de ce concept, dont on attend d'ailleurs de lire les travaux peut-être avant la fin de cette année. Guillaume, si tu as l'occasion de terminer ton livre de plusieurs centaines ou milliers de pages. Voilà, donc ces travaux étaient réalisés dans le cadre du cours Low-techisation et numérique. C'était une analyse critique du projet Fairphone. On aura également un petit peu plus tard, à 11h30 ou midi, selon notre calage, on parlera capteurs environnementaux, on parlera agroécologie et numérique, et on parlera aussi intermittence des réseaux ou comment survivre sans mail et sans web pendant quelques jours, notamment à l'UTC. Je vais remercier Thomas pour la programmation musicale en temps réel. Le morceau qu'on a entendu pendant l'émission s'appelait, vous ne devinerez jamais, Téléphone, par l'artiste Still Living Creature. C'était de la musique libre en licence Creative Commons by NCND. Et puisque Thomas ose tout, on va terminer sur une musique non libre qui s'appelle No Congo, No Fun. The children of Congo cry. Everybody say No Congo, No Fun. All my people sing No Congo, No Fun. No Congo, no fun. All my people say No Congo, no fun. I just don't think you know. Children are dying every day. I don't think you know. All my people keep crying, dying every day. So why not make a change? Can we do something today? This goes out to my people, DRC Congo. We never see things run peaceful. And I don't know people that will come and fight with me, though. Baba, go please save the kids, cause they're trying to get.